Souvent en France, on veut que tout soit, que tout le cadre légal soit en place et tout soit précis pour commencer à innover. Et c'est pour ça que les Américains nous mettent la pilule tout le temps, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Ils font et puis après, bon, bah écoute, si le truc il devient gros et ça devient un peu le bordel, on verra quoi.
Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant 3 ans.
Salut les gars, comment ça va?
Super bien, et toi?
Ça va, et toi Julien?
Très bien, merci. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça doit vous parler un petit peu quand même.
Ah, un petit peu quand même.
Un petit peu, hein. Je sais que c'est un sujet qu'on aime bien discuter entre nous. Donc voilà, j'avais envie qu'on échange un petit peu là-dessus. Donc je vais vous partager une anecdote. Je précise à nos auditeurs qu'en fait l'épisode, et on essaie toujours de faire ça, n'est pas du tout préparé. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas le temps, hein, en fait si un peu, mais c'est surtout parce qu'on veut, avoir des échanges qui soient le plus authentiques possible et les plus spontanés. Donc on prépare jamais nos épisodes, voilà. Alors on a trouvé une bonne raison de procrastiner là-dessus. Alors du coup aujourd'hui je voulais vous partager, sur TikTok je pense que j'ai vu Frédéric Mazella qui était interviewé sur un journal qui parlait beaucoup de l'entrepreneuriat en France et en Europe. Et lui, bah, il est un peu justement un porte-parole, ce qu'on appelle une licorne, je pense, c'est les startups qui réussissent un certain chiffre d'affaires.
Plus d'un milliard de capitalisation en termes d'évaluation de la boîte, parce qu'elles ne sont pas forcément en bourse.
C'est ça.
Mais elles valent plus d'un milliard en termes d'investissement.
Combien on a de licornes en France? Est-ce que tu le sais?
Une vingtaine, trentaine, je crois qu'il y a pas mal de licornes qui ont augmenté là, ces dernières années. La dernière, c'était Sorare en tête. Et peut-être d'autres qui ont rejoint là, ces derniers temps, mais on n'est pas plus de 40, je dirais.
Ouais. Il y a ouais. Ledger aussi, non?
Ledger aussi, ouais.
Probablement Ledger, ouais. Mais effectivement, moi, le chiffre m'a surpris. Honnêtement, je pensais plus par rapport aux États-Unis. Mais voilà, c'est ça, c'est sûr que
ça reste un petit pays quand même.
Ça reste un petit pays, mais c'est un pays avec des grandes idées. Et en fait, souvent, bah, ils en parlent énormément, comment c'est difficile, parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs français qui deviennent des licornes à l'étranger, quoi. Mais bon, là, l'épisode, bah, à moins que vous avez envie de parler de ça, hein, on est ouvert, on peut parler aussi de qu'est-ce que les politiques mettent en place pour garder leurs entrepreneurs. Mais là, ce qu'il disait, je trouvais ça intéressant, il parlait des idées, parce que souvent, on dit... Ah ben moi j'ai une idée incroyable, tu vois, je pourrais faire fortune avec ça. Et on attache beaucoup d'importance aux idées. Quand en fait c'est peut-être la partie la moins importante du projet. Donc lui ce qu'il disait c'est qu'une idée, elle appartient pas à un individu, elle appartient à une génération. Parce que quand on a une idée, souvent c'est la réponse à un certain environnement dans lequel il va y avoir des difficultés, des challenges, des opportunités. Et du coup, ben, une idée c'est une proposition de solution. Et quand toi, tu as eu une idée de business, souvent, en fait, ce qu'il expliquait, selon lui, c'est que cette idée, d'autres l'avaient eue, tu vois, à travers le pays ou du moins des personnes qui vivent dans un environnement similaire au tien. Et en fait, tu n'attaches pas trop justement au fait que tu aies eu cette idée-là. Elle ne t'appartient pas à toi, elle appartient à ta génération. Et après, il disait qu'il y avait une question de timing. Donc, il disait 5 ans avant, c'est trop tôt. Et on l'a vu, hein. Par exemple, il y avait eu d'autres choses qui s'étaient passées avant Bitcoin et ça n'avait pas marché, tu vois. Ou alors, 5 ans après, c'est trop tard. Donc, selon lui, il y avait une fenêtre comme ça, peut-être d'une dizaine d'années. Et qu'une fois que tu avais eu l'idée, il disait là, par contre, dépêche-toi, parce que là, la course est lancée entre tous ceux qui ont eu cette idée-là. Et ça va être vraiment ceux qui vont être capables de ramener cette idée dans la matière, de la transcrire, de la mettre en œuvre. C'est à eux que reviennent finalement le mérite, en fait. Et à la limite, je pense que j'ai pas d'exemple en tête, mais il me semble avoir... qui c'est qui avait pris Magic Car? Bah, c'est Uber, je pense. Uber avait pas eu l'idée. En fait, c'était Magic Car apparemment qui l'avait fait avant eux. Et eux, ils ont juste repris cette idée-là, donc elle leur appartenait pas. Mais ils l'ont mis en œuvre beaucoup mieux, en fait. Et aujourd'hui, voilà, personne connaît Magic Car, mais tout le monde connaît Uber. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais votre avis là-dessus et puis je voulais partir la discussion de cette anecdote.
Déjà, je peux t'affirmer qu'il y a 25 licornes en France.
Ah bon, merci d'avoir vérifié.
Aujourd'hui, ouais. Voilà. Et ben ouais, Christian, toi, est-ce que t'as une idée là qui te vient à l'esprit?
Bah, est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà?
Moi, je. Oui. Ouais. Je valide.
Je trouve que ça. Ouais, ça s'est vérifié en plus. Il y a plusieurs inventions qui ont été faites en même moment. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette. Invention-là, mais je crois bien que le téléphone qui a été... Oh putain, je dis peut-être une bêtise là, mais par Alexandre Graham, je crois bien qu'au même moment, il y avait quelqu'un d'autre qui l'inventait ailleurs.
Okay.
Enfin, il y a plein de révolutions comme ça, je crois, qui ont été inventées en même temps, à quelques années près, dans l'évolution technologique. Donc moi, ça me paraît assez cohérent, cette idée qu'en effet, on est comme une matrice d'idées et... On n'est pas obligé de penser à de l'extraordinaire là-dedans. Hein. Moi, si je parle de manière très pragmatique, on est dans une génération où on a tous les mêmes problèmes. Et donc, forcément, confronté à des problèmes, on essaye de trouver des solutions à ces problèmes. Et potentiellement, c'est assez logique, en fait, pour moi, je trouve, d'avoir des communautés de personnes qui vont trouver des idées similaires à différents endroits sans pour autant se communiquer, parce qu'en fait, ils tombent sur les mêmes soucis, et donc du coup, ils doivent trouver des solutions qui correspondent à ces soucis-là.
Et toi, Christian, qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, enfin, je dis je valide, mais c'est en tout cas l'expérience que j'en ai eue à titre personnel sur la partie expérimentation, mise en action. Mais pour revenir sur cette notion d'idée qui est disponible, ouais, ça, là-dessus, j'ai cette croyance, en tout cas... un peu à l'image d'Avatar, où on serait capable de en effet, piocher dans une sorte de... Un peu comme Internet, en fait. C'est-à-dire, on a notre ordinateur qui est coupé du réseau, mais à tout moment, on peut se brancher, puis aller chercher des informations sur le web, quoi. Donc, après, je pense qu'il y a, en effet, ce côté très pragmatique, très logique, et puis des fois, je pense qu'il n'y a pas forcément ce côté pragmatique. Je crois que c'était en sport. Alors, je serais incapable de donner des noms. Je pourrais me renseigner. Mais j'avais appris ça à l'époque quand je me formais dans le sport. Et en fait, apparemment, il y avait eu deux chercheurs qui avaient fait une trouvaille. Et ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas communiqué, ils ne s'étaient pas informés mutuellement de la recherche. Et il se trouve qu'ils avaient fait la même découverte au même moment, à quelque chose près. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, les recherches étaient complémentaires. Enfin, les trouvailles que chacun avait faites étaient complémentaires l'une de l'autre. Et pour la petite anecdote, je crois bien qu'ils portaient le même prénom. Enfin, des trucs assez flippants, quoi. Enfin, flippants. Mais en tout cas...
Ouais, il y a des synchronicités dans l'univers, quoi.
C'est intéressant.
Ouais, non, mais c'est impressionnant. Regardez, là, je regarde le truc. C'est bien ce que je disais pour le téléphone. Donc, c'est bien Alexandre Graham Bell qui invente le téléphone. Et l'idée est dans l'air puisque Elisha, je pense que ça se prononce comme ça, Gray, dépose le même jour un autre brevet de système téléphonique. Le même jour.
C'est fou, hein? Et tu
c'est
vois, l'autre, tu vois, Graham, j'avais déjà entendu, mais pas Elisha. Donc l'histoire,
oui, parce que
l'histoire
coup,
se rappelle que
l'histoire
d'un.
L'histoire se rappelle d'Alexandre, parce que du coup, ça a été celui qui a été validé comme étant le premier. Il avait l'antériorité. Il a été reconnu avec l'antériorité du brevet. Mais en fait, il y a une personne, même encore avant Alexandre, c'était Boursel, à ce qui paraît, mais ça passe inaperçu. Qui avait proposé dès 1854 un mécanisme capable de transmettre la voix à distance par l'intermédiaire d'un fil électrique. Donc il a fallu quand même attendre plus de 20 ans pour finalement avoir le téléphone.
Après, j'ai pas forcément d'exemple en tête, ça va peut-être me venir, mais je pense qu'au-delà aussi de l'implémentation, il y a peut-être aussi des découvertes qui ont été plus marquantes ou plus retenues dans les esprits, où on a plus retenu un nom qu'un autre, parce que peut-être aussi elle a été mieux marketée. Il y a eu un marketing plus intelligent qui a fait que du coup, peut-être qu'une autre personne avait révolutionné la chose, elle l'avait tout autant découverte, mais elle a peut-être pas su le mettre sur le marché, le rendre séduisant, le montrer en quoi ça pouvait être utile pour les consommateurs ou pour les utilisateurs. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue au-delà de l'implémentation. On l'a vu notamment avec Apple. Hein.
Ouais, vas-y, développe cet exemple.
Par rapport au film que j'avais vu de Steve Jobs.
Lequel?
Alors je sais plus lequel, je crois que c'était avec, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et,
oui,
c'était
mais avec... deux.
Ouais, deux, ouais.
Aston Kutcher ou avec
Aston Kutcher. Et oui, c'était ça, c'est qu'il avait un cerveau, qui trouvaient tout et qui faisaient des beaux prototypes, des belles machines. Mais heureusement qu'il y a eu Steve d'une certaine façon pour jouer sur le côté différenciant, le
Marketing, ouais.
côté esthétique, le côté marketing, où il vendait une idée, notamment on le souvient avec l'iPod, où il exprime qu'il y a je sais plus combien de milliers de musiques dans le creux de sa main. Où il va
Ouais.
utiliser des images fortes qui impactent et il va pas rester sur des comment dire des fonctionnalités qui prennent la tête aux gens et au final les gens c'est du jargon, ils retiennent rien quoi.
Ouais, les caractéristiques, ça a peu d'importance. Finalement, c'est le besoin auquel tu réponds. Mais d'ailleurs, on le voit bien que des fois, il était en dehors de son temps, puisqu'il a proposé des choses qui n'ont pas réussi à fonctionner tout de suite. La tablette, je crois qu'il l'avait inventée bien avant l'iPad, en fait. L'iPad,
La
c'était
tablette,
juste.
c'était Moïse qui l'avait inventé, la tablette, avec les 10 commandements.
C'est pas faux. Belle blague.
Mais tu vois, peut-être un exemple plus récent pour ceux qui connaissent Owen Simonin, Asher. Et à un moment donné, il parlait, je pense que c'était dans une entrevue avec Grand Angle Crypto, avec Richard, où il lui disait qu'en fait, ce qu'il fait aujourd'hui avec. Tu sais, quand il a fait les machines de prêt-à-miner de Bitcoin, les Bob.
Ah, les ASICs, ouais, il a commencé
Ouais.
à vendre des ASICs tout près, ouais.
Quand il a commencé à vendre des machines de minage Bitcoin tout prêtes, quoi.
Ouais.
En fait, l'idée lui avait été donnée par un de ses followers sur YouTube,
Un de ses followers, tout à fait, oui, je
qui
m'en
avait
rappelle, exact.
commenté, il avait laissé un message dans la vidéo et il avait dit
Lui
ça
dit,
serait
mais.
tellement bien si je pouvais avoir une machine, j'ai juste à la brancher dans le mur et voilà, ça minerait du Bitcoin automatiquement, puis ça m'enverrait l'argent sur un wallet. Et en fait, lui, il est allé voir son frère et il lui a dit, il dit, tiens, c'est.
C'est-il possible, ça?
Ouais, en fait, moi je peux vendre cette idée. Est-ce que toi tu peux la réaliser? Et son frère lui a dit, il avait regardé, laisse-moi checker. Et finalement, il lui est revenu, ok, c'est bon, moi je peux le faire. Bon, ben c'est parfait, on le fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant comme petite anecdote là aussi, c'est que l'idée était même pas de lui, c'était une des personnes de sa communauté. Et ce qui, c'est pas le, il n'y a pas d'histoire de mérite, c'est mon idée, c'est pas mon idée. Là, tout l'enjeu, il est finalement sur le mettre en œuvre. Et vendre l'idée ensuite pour la démocratiser.
Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, pour avoir un peu creusé plusieurs outils de connaissance de soi, souvent on retrouve quatre profils et ça tourne toujours un peu autour de ça, c'est-à-dire il y aurait un profil qui est très créatif, qui a des idées, un autre profil qui va être capable de mettre en action, de mettre en œuvre l'idée, de passer à l'action, là où celui qui est plus créatif va être plus à l'aise dans le monde des idées que dans le monde de l'action. Une autre personne qui va être plus à l'aise avec le genre humain, qui va être capable de communiquer, d'avoir cette intelligence relationnelle pour communiquer une idée, pour faire passer un message, ce qui est encore autre chose. Et puis il y aurait une quatrième profil qui serait plus sur le côté après, comment dire, systématiser, automatiser certaines choses, faire en sorte que les process tournent et soient
Le
rodés, quoi.
scaling, quoi.
Ouais, c'est ça, scaler éventuellement, ouais.
Ah, c'est intéressant ça. Et alors, du coup, vous diriez que vous êtes de quel profil, vous?
Je me vois plus dans. J'ai un peu de. Pas de tout, mais c'est clairement ma bête noire, moi, c'est l'action. Ma force, ça va être plutôt sur la relation, le relationnel. Et puis après, à part égale entre le fait d'anticiper, d'être plus dans le mental. Donc le côté. Comment dire
Les
ce que je
idées,
dis.
quoi.
Ouais, non, pas les. Enfin, oui, les idées, donc créativité. Le relationnel et puis l'autre, là, le fait d'anticiper, de voir à l'avance et donc du coup de pouvoir roder un peu les choses et faire en sorte de les systématiser pour
Ok.
anticiper. Voilà.
Et toi, François, t'es dans l'action, là, clairement?
Ouais, moi je suis plutôt dans l'action,
Ok.
relationnel, oui aussi. Et puis, je pense que j'ai une problématique sur l'organisation, c'est sûr.
Ouais, ça c'est notre
J'ai des points
fardeau.
d'amélioration, ça c'est clair
C'est
et
notre
net.
fardeau, les
Mais
catélas, je crois.
en même temps, du coup, grâce à mon action, ça me permet de compenser. Mais du coup, je fais des heures de bâtard, quoi. C'est con. Mais peut-être avec un petit peu plus d'organisation, ça pourrait aller mieux.
Sûrement,
Bah après,
comme pour
encore une
tout,
fois,
toujours améliorer.
c'est complémentaire, quoi. C'est là où on se rend compte qu'en fait, ça peut être intéressant de se regrouper avec d'autres personnes, d'autres profils qui vont être complémentaires aux nôtres. Et puis après aussi de s'adapter parce que chaque profil a sa force. Et après, des fois, dans des situations de stress, c'est plus facile de jouer à domicile, c'est-à-dire de jouer son profil parce qu'on le connaît bien. Donc c'est une forme de sécurité, de protection d'une certaine façon. Sauf que dans des situations qui nécessiteraient peut-être d'autres compétences, d'autres prédispositions, bah on va pas forcément jouer les bonnes cartes, et c'est là où ça peut se retourner contre nous. Parce que du coup, comme le disait Albert Einstein, c'est de la folie d'imaginer des résultats différents en continuant à se comporter toujours de la même façon. Et donc, le fait d'être conscient de ça et de pouvoir progressivement sortir de ces habitudes de comportement, ça permet d'agir différemment. Et toi, Julien, tu te positionnerais où?
Bah, moi, je suis plus dans le monde des idées. Après,
Ouais.
je crois que j'ai une force pour vendre les idées aussi.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui peut.
Ouais.
Ouais. J'ai toujours dit qu'il faudrait que faut que je m'associe en fait avec quelqu'un qui peut prendre le relais dès qu'il faut rentrer dans la matière. Parce que moi, c'est mon point faible. Mais.
Je pense qu'on s'est là, on était bien
Complémenté.
complémentaires
Ouais.
quand on avait créé le mini-fonds d'investissement.
Ouais. Ouais, ou là, avec ce qu'on veut, à chaque fois, on tease un petit peu
Oula.
sur chaque épisode, mais ce qu'on veut, le projet qu'on veut mettre en place éventuellement, quand les idées seront plus claires, on le pitchera plus précisément sur Balado 3.0. Mais je pense que définitivement, on a des forces qui peuvent se connecter ensemble. Et en fait, on a cette chance-là. Après, je pense que pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être, qui n'ont pas nécessairement voilà, une fratrie autour d'eux ou des. Je pense que c'est vraiment important en fait de faire la démarche d'aller rencontrer des gens qui nous complémentent et s'associer à eux. Moi, je crois plus à cette idée qu'on peut faire quelque chose tout seul en fait. Pas
C'est la clé.
aujourd'hui. La,
C'est
pas
la clé.
aujourd'hui, la compétition est trop forte.
Ouais, totalement. Et puis souvent, en plus, les gens ont peur de ça, alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment que du plus, quoi. Là, moi, je me suis associé sur un bien immobilier là, cette année pour pouvoir paralléliser et faire deux biens en même temps. Je trouvais ça plutôt pertinent et je voulais aller chercher vraiment du cash flow assez rapide et pas me prendre la tête à faire deux biens de la même taille, mais plutôt aller chercher des tailles un peu plus grosses. Et sans ça, j'aurais pas pu, quoi. Et je suis très content parce que c'est tout du positif, quoi. C'est aussi bien pour moi que pour Damien qu'on fasse ça ensemble, quoi.
Ouais. Et si on revient sur l'entrepreneuriat, du coup, j'aime bien aussi, je trouve que ça enlève un certain stress de se dire, c'est pas tant l'idée, quoi. À la limite, on peut quasiment aller à la cueillette, tu vois. On regarde, on essaye de s'imprégner de notre environnement. Je pense juste, on pourrait trouver des idées juste en scrollant un feed Instagram et
Et
essayer
bien
de
sûr,
détecter des
et bien
besoins.
sûr.
Et après ça, par contre, il faut que l'idée, elle nous porte.
C'est
Ouais.
ça.
Assez haut
C'est
pour
exactement
la.
ça. C'est exactement ça.
C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, enfin moi, dans toutes les formations que j'ai pu faire sur l'entrepreneuriat, j'en suis pas encore rendu là, mais c'est vrai qu'au début, le symptôme, c'est un peu, ah, mais j'ai pas d'idée, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et plus j'écoute des personnes qui sont avancées dans l'entrepreneuriat, je pense à Stan, je pense à d'autres, bah en effet, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'au bout d'un moment, au contraire, en fait, tu as des idées, tu en as plein, en fait, et tu n'as plus de temps, en fait, pour les réaliser. Et après, on se rend vite compte par rapport à ce que j'ai évoqué que, en fait, c'est que un quart à la limite de la solution, parce que, en fait, derrière, ce qui est le plus important, c'est l'alignement entre qui je suis et l'idée que je porte, donc l'adéquation homme-projet, enfin homme avec un grand H, hein. Et puis ensuite, est-ce qu'elle est en phase avec moi, est-ce qu'elle est en phase avec mon histoire, avec voilà mes forces, mes compétences, est-ce qu'elle me fait vibrer, etc. Et puis après, en effet, bah, ça va être la mise en action et tout le reste, en fait. Et c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, c'est du boulot, en fait. Et une idée, ben oui, mais en fait, ça, c'est pas tout. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tombent dans cette peur de se dire, ah, il faut que je la garde précieusement, faut pas que je la communique, etc. Faut que je la fasse déposer,
Ça
sécuriser,
me fait rire,
etc.
ça.
Mais en fait, au contraire, des fois, ça peut être intéressant justement d'en parler autour de soi parce que c'est comme ça qu'on
Ouais.
va fédérer des personnes. Et puis peut-être ça va la challenger, du coup ça va nous obliger à la repenser parce que à un moment donné on a des zones d'ombre qui vont nous empêcher de penser les choses à 360. Donc après voilà, peut-être choisir quand même ses interlocuteurs, mais ouais.
Ouais, tu vois, bah après c'est toujours pareil. En fait, je pense que c'est vraiment un doux rêve, cette idée que il y a quelqu'un qui va te voler ton idée. Elle a été remontrée au cinéma il n'y a pas si longtemps avec Mark Zuckerberg qui vole les idées des frères.
Ouais,
Putain, j'ai mangé leur nom là, mais
mais même là,
comment?
Mathias,
C'est comment déjà?
Wilkenvoss,
Winklevoss, ouais, c'est ça.
c'est un
Et
bon
du coup,
exemple là. C'est un bon
c'est.
exemple que tu prends. Parlons de ça. Est-ce que c'était correct? Alors,
Bah, en vrai,
c'est
ils
une
n'avaient pas les
question piège là.
compétences, les frères. Ils n'avaient pas les compétences,
Voilà.
les frères. Mais bon, après, en effet, tu vas voir un gars avec un dé, enfin, qui peut te développer quelque chose, tu fais, bah ouais, tu fais peut-être gaffe, surtout si tu lui demandes une bêta, et puis qu'en fait, au niveau de la bêta, il se rend compte que ben ça marche de ouf et qu'il peut peut-être faire quelque chose de malade. Bah après, ça les a pas. Mais moi, je trouve que c'est un super exemple, parce que c'est vrai que regarde, les frères, là, maintenant, ils sont quoi? Ils ont créé un putain d'exchange, la Gemini, qui marche très très bien aux États-Unis, qui est très bien régulé. Enfin, si je dis pas de
Ouais,
bêtises, hein.
non, absolument. Ils ont eu une autre idée, en fait. Tu vois, ils en ont beaucoup.
Ouais, voilà, c'est ça, ils en ont plein.
C'est des gars qui sont brillants, qui ont du génie et qui ont de l'argent et qui sont aussi potentiellement bien entourés. Je pense qu'ils n'ont jamais eu de
Ah
problème
bah, ils ont
à
le
trouver
réseau Harvard,
des
si
partenaires,
tu
tu
veux.
vois, le réseau, etc. Donc là, sur l'idée de Facebook, c'est sûr que la façon dont c'est fait dans le film, alors je ne sais pas si ça a été un petit peu romantisé ou
Je sais
quoi que
pas,
ce soit,
c'est romancé.
mais
T'es obligé.
à mon avis, tu vois, c'est sûr que si tu regardes la question d'un point de vue valeur ou, tu vois, morale, oui, c'est vrai qu'il leur a menti ou il a joué un peu dans leur dos, quoi, tu vois, il n'a pas été totalement honnête. Mais après, pour moi, mais Facebook, ça reste que c'est lui qui l'a mis en place, tu vois, c'est lui qui a tout développé le code, c'est lui qui a, après, qui l'a amené, tu vois,
Bien
il s'est
sûr,
associé aux
bah,
bonnes
bien sûr.
personnes, il y a eu les bonnes idées. Alors après, par contre, pour son poteau, là,
Oui, pour son bateau, c'est autre chose.
qui lui a donné de
Mais
l'argent et tout, bon, là, il lui a fait un peu la zup quand même.
je suis d'accord sur ce que
Mais
tu
pour
dis,
les
c'est-à-dire
jumeaux,
qu'il y a, ouais, il y a
je suis
fort à
pas choqué,
parier en
quoi.
fait que les jumeaux, vu qu'ils étaient quand même assez jeunes, ils étaient encore en études, il y a fort à parier que si c'était eux qui avaient essayé de coder, ou s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait codé mais qui n'était pas Marc, tu vois, genre qui n'avait pas les compétences pour pouvoir le faire. Bah, ils seraient peut-être arrêtés à un petit site d'une fac, comme c'était à la base, voilà, juste un endroit pour connecter des gens à l'intérieur d'une faculté. Et ça n'aurait pas finalement allé plus loin. Donc, encore une fois, moi, je suis vraiment là-dessus. C'est ton idée, c'est très bien, mais si elle ne te motive pas à aller plus loin, à te bouger le cul pour pouvoir te lever tous les matins et bosser dessus. Bah en fait, ça m'étonnerait que tu t'y arrives quoi.
Ouais. Et puis ton idée aussi, pour rebondir aussi sur l'idée de Christian tout à l'heure, c'est que de ne pas voir les autres comme des compétiteurs. Parce que si tu veux pas éventer le secret, c'est ça, c'est que tu as peur que voilà, je le dis à mon coiffeur, genre mon
C'est
coiffeur, il va
ça.
partir en business contre moi. Et plutôt au contraire de pitcher autant que
Mais bien
possible
sûr.
ton idée, parce qu'à force d'en parler, bah déjà tu précises tes idées, tu vois la réaction de ton public, des gens, est-ce qu'il y a de l'intérêt, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt, tu précises ton avatar, et c'est intéressant, tu vois. Donc ouais, je pense que ça, c'est la morale.
Et puis, moi, je rajouterais aussi cette différenciation entre idée et vision.
Ok.
C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une idée, mais c'est juste une idée, un tips, un truc qui va me faire gagner beaucoup d'argent très rapidement, ou enfin, dans un fantasme, hein, bien sûr. Et ce que je vois, c'est que les grands entrepreneurs, souvent, ils étaient attachés à une vision, en fait. Tu prends Disney, tu prends Steve Jobs. Alors peut-être qu'au début, ils n'avaient pas tous les points reliés, hein, mais à la limite, combien de fois Steve Jobs, il a été évincé de ses propres projets, mais en fait, on pouvait même essayer de le copier, mais lui, c'était plus grand, en fait. Il avait vraiment la vision de ce qu'il voulait à un moment donné. Enfin, je ne sais pas, hein, je suis pas dans sa tête, mais j'imagine un peu, vous voyez, où quelqu'un aurait juste une idée comme ça, mais si quelqu'un s'amusait à lui prendre, ça ferait qu'une copie, une pâle copie en fait. Et l'autre, il pourrait à un moment donné, s'il accepte qu'en fait c'est pas un jeu qui est fini, mais c'est un jeu qui est infini, c'est-à-dire qu'il peut apprendre de ça et se dire, bah c'est quoi les avantages? Est-ce que cette personne, elle m'a pris ça? Et peut-être qu'elle va l'aider en fait à, sous un autre angle, la repousser dans ses retranchements, repenser son projet différemment et peut-être l'amener à un autre niveau qu'elle n'avait pas imaginé au tout départ. Et finalement, ce qu'on pourrait croire être un adversaire, elle va être finalement une personne qui va nous repousser dans nos retranchements créatifs et peut-être développer quelque chose qu'elle n'aurait pas eu et peut-être élargir un petit peu plus cette vision qu'elle a au travers de cette idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et finalement, ça me fait penser un peu au fondateur dans McDonald's. C'est un peu ce qui s'est
Ouais.
passé aussi, hein.
Exact,
Et
exact.
où il a été capable, là, pour le coup,
Totalement.
de systématiser, d'automatiser, de rendre plus fluide quelque chose qui était bien puissant à la base.
Oui, qu'ils avaient essayé de faire. Ils avaient essayé de le franchiser. Ils n'ont pas réussi. Donc ça montrait bien que
Il s'est
la
arrêté là.
capacité de le franchiser, c'était pas, je sais plus leur nom
Bon,
là,
après.
au McDonald's, du coup, oui,
Ouais.
c'était le nom qu'ils avaient. Au McDonald's, finalement, c'était pas eux.
Après, d'un point de vue éthique, c'est vrai que ça peut être discutable, hein, surtout à la fin. Je me souviens que c'était pas cool, mais.
Oui, il les a pas payés, il a pas tenu sa parole,
Ça, j'ai
etc.,
pas
etc.
compris pourquoi. Je veux
Ouais.
dire, quand t'es.
Surtout en
Je sais
plus, comment
pas.
il était en mode.
Je
Enfin,
pense
voilà, il avait réussi, quoi.
que... peut-être l'ego, tu vois, au bout d'un moment, ça s'est lui monté à la tête et puis il s'est dit, je les ai gagnés, tu vois, genre, je sais
Ouais,
pas.
ils pensaient pas leur devoir rien du tout.
Ouais. Je l'ai vu il y a pas si longtemps en plus. Ouais,
Mais
c'est
c'est
vrai
quoi
que.
un chiffre? Il
Je
était
sais plus,
attaché à
c'est.
l'argent. Après, parce qu'il venait justement d'un milieu où il avait
Ouais,
beaucoup
un
galéré,
milieu.
donc
Ouais, il avait galéré, hein. Et tant, il a fait sa fortune à 50 ans, le mec.
Ah, mais pourtant, justement,
C'est
c'est
rare, hein.
souvent ces personnes-là qui savent d'où elles partent, qui ont connu, qui devraient justement être en mesure
Bah, c'est
de se
rare.
rappeler d'où elles viennent, quoi. Donc c'est. Ouais. J'ai pas compris, moi, j'avoue.
Ouais.
Mais en tout cas, ça
Mais non,
illustre
mais
quand même bien
c'est
cette idée
un.
que des fois, on peut avoir l'idée et des personnes avec d'autres compétences vont pouvoir l'amener à un autre niveau. Après, c'était peut-être pas forcément la vision, justement,
Ouais, c'était pas la
parce que
vision des
eux, ils avaient
fondateurs.
une vision peut-être plus familiale, plus sympa et pas forcément
Tout
un truc
ça.
complètement dingue qui révolutionne complètement l'industrie
Eux, ils aimaient faire à manger, hein.
de
Ils aimaient la
l'alimentation
bouffe,
rapide.
j'ai l'impression. C'était un cuistot.
Eh ben non, mais c'est une très bonne précision là que t'apportes, Christian. Et alors, pour quelqu'un qui nous écouterait, qui a une idée du coup et qui a compris que c'était peut-être pas nécessairement la panacée quoi d'avoir l'idée et qui veut se mettre en action justement. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour la deuxième partie du projet du coup? Donc on a une idée, voilà, on en parle un petit peu autour de nous, il y a des gens peut-être qui semblent intéressés. Ce serait quoi la suite logique?
Donc moi je dirais déjà bien de poser sa vision, comme a dit Christian, ça permettra d'avoir son moteur, de comprendre pourquoi on le fait. Une fois qu'on a fait ça, je pense que la meilleure solution, c'est de commencer à créer vraiment une audience autour de son projet. Alors soit c'est un projet qui se fait sur Internet, soit c'est un projet plutôt présentiel, peu importe. On peut quand même utiliser, je pense, une audience à l'heure actuelle avec l'heure des réseaux sociaux, on peut monter. Voilà, un compte TikTok, un compte Insta, un compte YouTube, générer des abonnés et puis avec ces abonnés commencer à les questionner avec un formulaire, les faire rentrer en fait dans sa base email, poser un formulaire qui permet de comprendre son avatar client, comprendre les besoins du client et ne pas partir de son idée en fait. Son idée, je pense que c'est l'erreur que fait la majorité des gens, c'est de construire tout de suite quelque chose avec l'idée qu'ils ont. Non, on repasse toujours par le client. Le client, c'est lui qui achète à la fin, donc il faut lui construire le produit qu'il veut. Et ça,
C'est un bon
je pense que
conseil.
c'est le plus
Et toi,
important.
Christian, tu dirais quoi?
Alors, juste, je vais challenger un peu le truc en disant peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas forcément avoir l'idée, mais qui vont trouver une personne qui a une idée aussi. Ça peut être ça, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir une envie plus, un domaine, quelque chose, et puis ça va être une rencontre. Et peut-être que du coup, ils vont tomber amoureux de ce profil, de cette personne qui va avoir cette idée, qui va rejoindre cette direction, et ils vont peut-être, par une association, venir apporter leur zone de force, leur compétences, leur prédisposition pour que le projet puisse se réaliser. C'est tout aussi pertinent. Après, en effet, si on est dans la suite logique de l'idée, en effet, je pense que ce que François a évoqué est très important. C'est-à-dire que moi, je dirais d'abord peut-être aussi là où en effet beaucoup font l'erreur, c'est de tout de suite se jeter la tête la première sur l'idée, c'est de l'explorer davantage, de l'ouvrir, de peut-être aller chercher. Des zones d'inspiration et puis de voir un peu ce que propose le marché, voir qu'est-ce que je propose moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, voir plusieurs façons, plusieurs formes, parce qu'au final il y a une intention mais elle peut prendre plusieurs formes dans la matière et puis après voir par rapport à tout ça finalement et là on peut avoir un choix finalement avec tout ce brainstorming qui a émergé de cette réflexion, enfin au travers de ce brainstorming, de faire un choix et se dire bon bah qu'est-ce qui est le plus pertinent maintenant dans toutes ces possibilités-là et par rapport à ce que propose déjà le marché et du coup trouver un peu un moyen de se positionner pour apporter quelque chose qui va amener une valeur ajoutée en fait à quelque chose que le marché ne propose peut-être pas ou pas de la même façon ou différemment, enfin voilà, avec des choses qui fait que du coup j'ai ma légitimité de venir me positionner dans le marché. Et après en effet par rapport à cet auditoire, cette audience, bah bien comprendre en fait ce que eux ils recherchent finalement, parce que j'aime beaucoup cette idée, c'est que si vous êtes coach sportif, vous vendez les tablettes de chocolat, mais après vous leur donnez les exercices pour faire les abdos et la transpiration, etc. Donc les gens ils vont jamais acheter l'effort en fait, ils vont acheter le résultat. Et finalement c'est de voir un peu comment nos futurs clients, ils se voient avec le résultat. Qu'est-ce qui ils veulent quelque chose de séduisant, quelque chose qui leur donne envie de se mobiliser. Et si on commence déjà à parler de la solution, en fait, ils vont pas forcément la comprendre, en fait. Donc, c'est important de parler leur langage, là où ils en sont, leur niveau de conscience de là où ils en sont. Et puis après, éventuellement, leur permettre de prendre conscience des solutions qui sont possibles avec ce qu'on a trouvé, étant donné, enfin, par rapport à l'idée qu'on a.
Moi, je mettrais deux exemples à ça. On peut reprendre le fondateur, qui au tout début vendait des machines à glace. Là, il n'arrivait pas du tout à les vendre. Bon, bah, voilà, il s'avère que bah, il y a des fois, tu tombes au bon moment, au bon endroit. Et il est tombé sur bah, McDonald's, qui lui a acheté, je ne sais pas combien de machines. Il comprenait pas. Il a dû forcément y aller pour tirer la conclusion que, bah, en fait, il y avait un putain de business qui était à faire ici. Et puis je dirais un autre exemple à la recherche du bonheur avec Will Smith où il se retrouve en fait à acheter une machine médicale qui fait des tests et ouais en fait il s'est fait dépasser par la technologie. C'est comme je pense en crypto-monnaie des personnes qui ont acheté des ASICs à un certain moment donné. Ces machines-là qui permettaient de générer du Bitcoin se sont fait vite dépasser et ils se sont retrouvés avec des stocks d'ASICs qui servaient plus à rien. Parce que du jour au lendemain, on est passé d'un processeur à un autre. Donc ça, c'est toujours la problématique, quoi. Quand on a des idées, il faut pas juste se dire, ah tiens, ça c'est rentable. Faut aussi regarder son marché, comprendre comment il fonctionne, pas se lancer comme ça du jour au lendemain. Se positionner par rapport à ça. Je pense qu'il y a une erreur aussi classique, c'est, j'y pensais tout à l'heure, parce que je le dis, de se poser trop de questions, par exemple, sur la forme juridique, sur tous les trucs qui sont à côté en fait, de la boîte, qui sont en dehors finalement des actions que tu vas mettre en place pour pouvoir générer finalement du profit. La première chose en fait que tu dois te dire, c'est ce que je dois faire, c'est vendre. Je pense que ça c'est le premier truc en fait qu'un entrepreneur doit faire et pas se poser 150 000 questions de c'est comme et ça on le retrouve de partout hein. On le retrouve en investissement, on le retrouve dans
Mais ça,
plein
je
d'autres
pense que
domaines.
c'est un problème très français en fait, parce que souvent en France, on veut que tout soit, que tout le cadre légal soit en
Soit
place
parfait,
et tout
soit
soit
parfait,
précis pour commencer à innover.
ouais.
Et c'est pour ça que les Américains nous mettent la pilule tout le temps, parce qu'en fait, c'est
Bah
l'inverse.
oui.
Ils font et puis après, bon bah écoute, ces trucs ils deviennent gros et ça devient un peu le bordel, on verra quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'effectivement, c'est bien que tu en parles. Moi, je l'ai vécu à une certaine époque. Au Canada, tu vois, je ne sens pas du tout cette pression-là parce que tu es déjà entrepreneur de base, tu n'as rien à faire, ton statut te permet déjà d'être à l'emploi. Tu vois, je peux vendre, faire des contrats, j'ai pas, à moins de dépasser un certain chiffre d'affaires, mais là encore, tu es rendu big et rendu là, tu peux investir, tu peux te faire accompagner par des professionnels qui peuvent t'aider à structurer ta boîte. Mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se coincent à ça, qui disent, alors auto-entrepreneur, je pense que ça a énormément aidé quand même.
Ça a aidé, mais du coup tu te restes bloqué dans ton cadre. Du coup, tu te dis bah ouais, mais il faut pas que je fasse plus de temps de
Ouais, c'est
chiffre
ça.
d'affaires, sinon je vais
Tu commences
dépasser,
déjà
je
à te
vais
mettre des
devoir.
plafonds de verre, quoi.
C'est
Tu te mets
hyper
déjà des plafonds
limitant.
de verre, c'est ça.
C'est hyper limitant,
C'est
ouais.
exactement ça. Et après, c'est un système qui marche très très bien. Moi, j'en suis content personnellement. Je me suis mis en auto-entrepreneur, mais c'est à but vraiment de
Non,
démarrer, quoi.
objectif.
C'est à but de démarrer.
Et puis
Ah, très
après,
intéressant.
j'aurais envie de rajouter cette idée du business model, c'est-à-dire que oui, il y a l'idée. Oui, il y a la façon dont je vais la communiquer à mes clients, à qui je vais l'adresser, parce que peut-être que ça va faire un flop avec certains publics et puis avec d'autres, ça va être un carton. Et puis, il y a un timing, bien sûr, comme on l'a vu. Et puis après, il y a peut-être là où je vais récupérer de l'argent, comme par exemple le business model avec Google, où bah, finalement, ça va être par la publicité. Et donc, finalement, ça va être les utilisateurs vont pas payer, en fait, mais ils vont permettre de servir le business model qui fait que du coup ça va référencer et c'est ce référencement et cet algorithme qui va être leur force, tout comme dans McDonald's où à un moment donné il comprend que son business model c'est l'immobilier et des fois il n'est pas là où on l'attend en fait et c'est trouver en fait cette façon dont on va aller chercher l'argent parce qu'à un moment donné si on veut une viabilité il va falloir trouver de l'argent quelque part donc où est-ce qu'on va créer cette valeur et des fois c'est intéressant de voir que c'est pas forcément dans
C'est
je
pas
te
l'idée
donne
de
un
base
service
qui, ouais.
exact voilà. Des fois, peut-être le service va pas coûter quoi que ce soit en fait, mais peut-être qu'on va se positionner comme plutôt un organisme de formation, par exemple. Je vois que ça pullule de plus en plus maintenant, et on va se faire on va se mettre en OPCA et donc du coup on va proposer des financements et donc ça va peut-être faciliter les choses, ou on va avoir peut-être plus un business qui va être positionné sur les aides ou sur les possibilités que les personnes vont pouvoir obtenir. Donc y a quand même beaucoup de réflexions.
Et après, de se rappeler qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de notre champ de contrôle. Et tu peux avoir la meilleure idée, avoir fait avec les meilleures intentions, d'être associé aux meilleures personnes, puis quand même, ça n'a pas fonctionné parce que un timing qui n'était pas le bon, t'étais trop tard, t'étais trop tôt. Et en fait, je pense que si on revient sur la notion d'entrepreneuriat, pour moi, l'ADN de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut être tout le temps dans l'action et qui ne s'arrête pas à l'échec, en fait. C'est un gars, c'est un peu comme un bébé qui marche, tu vois, qui apprend à marcher. Donc, il va tomber, mais il va tout le temps se relever, en fait. Il ne se pose pas de questions. Il ne dit pas, OK, je suis tombé, c'est la fin, je ne marcherai plus jamais. Il ne se pose même pas cette question. Juste, il dit, OK, bah tiens, là, ça n'a pas fonctionné. Bon, on recommence. Et un entrepreneur, à mon avis, c'est ça, quoi. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui se disent entrepreneurs, mais qui s'arrêtent assez vite, en fait, tu vois, au premier échec. Ou... Après, il y a plein de questions culturelles aussi. Là, je sais que l'échec n'est pas vécu pareil par tout le monde. Des fois, tu peux avoir un poids, que ce soit la famille, la société, etc., dans laquelle tu évolues, qui peut... Là encore, je pense que l'entrepreneuriat aux États-Unis est très, très fort parce qu'ils sont culturellement... l'échec, c'est pas vu comme un échec, en fait. C'est vraiment vu comme... OK, il a fait quelque chose, quoi. Ouais, puis il était dans l'action, en fait. Si t'as échoué, c'est que tu faisais quelque chose. Tu vois, c'est intéressant, ça, je pense, de transformer, finalement, de remettre en perspective l'échec. Ou comme ou le non, par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui te... C'est un rejet, par exemple, en vente, tu vois, quand on te dit non à quelque chose, à une offre que toi, tu fais, c'est pas un rejet de toi ou de ta personne ou de ton idée. C'est juste un non, en fait. C'est peut-être même le début d'une discussion, parce que c'est là que tu commences à pouvoir argumenter, c'est de comprendre mais pourquoi la personne... Qu'est-ce qui fait que la personne a dit non à mon offre ? Ouais. Est-ce que j'ai bien écouté ce qu'elle me disait ? Est-ce que j'ai bien compris son besoin ? Ou est-ce que moi, ce que je propose n'est pas du tout adapté ? Et en fait, c'est un peu pareil. Là, je parle de la vente, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu cette idée quand même.
Mais c'est une très bonne un très bon positionnement que tu dis là. Et je pense que ça, c'est aussi un point super important, parce que si tu n'as pas cette arme-là en tant qu'entrepreneur, tu vas te faire manger. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, ça sert. C'est le fait de réussir à redescendre de sa montagne. À avoir des idées, ça pourquoi pas, sur les situations possibles, mais à ne pas tirer de conclusion sur pourquoi la personne dit ça ou qu'est-ce que la personne pense, ou etc., etc. Ça, si tu fais ça, tu tires une balle dans le pied, en fait, parce que ouais, comme tu disais, elle a peut-être dit non pour telle ou telle raison, et en fait c'est le début d'une conversation pour comprendre pourquoi. Et là, en fait, c'est de l'écoute active qu'il faut avoir, c'est poser des questions, et d'ailleurs c'est certainement ces personnes-là qui te feront le plus grandir sur ton projet, qui t'expliqueront le plus de choses, qui te permettront vraiment de générer finalement une vente à la fin. Une vente et un produit qui se vend pour plein de gens, parce qu'en fait tu vas pouvoir trouver les contradictions des personnes qui ne sont pas prêtes à passer le pas, et tu vas pouvoir en fait leur présenter à la phase en face de la contradiction une réponse qui bah ouais, ok, d'accord, bah en fait oui, je n'avais pas vu ça comme ça, quoi. Donc toujours redescendre de sa montagne, ne pas conclure pour les autres, ça n'empêche pas de réfléchir, encore une fois, ça n'empêche pas d'imaginer des solutions de la personne, de ce qu'elle pense, mais jamais de penser pour elle. C'est...
Plus le voir comme des hypothèses que tu valides après.
Ouais, comme des hypothèses que tu valides après en fonction de ses réponses.
Et pas comme des vérités absolues, quoi.
Ouais, comme un arbre, en fait. Ah oui, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et puis en fait, en fonction des questions, bah, j'élimine des chemins. Et à la fin, il me reste un chemin. Et là, c'est bon, j'ai compris mon client, j'ai compris mon avatar, j'ai compris ce qu'il veut. Et du coup, je vais pouvoir lui vendre exactement ce qu'il veut. Et en fait, je vais même pas lui vendre. C'est lui-même qui va me demander de l'acheter.
Là-dessus, ça me fait penser en fait à ta vidéo que tu as partagée là en short, François, sur le biais du survivant. Ouais. Et ça m'a rappelé un bon souvenir. Et finalement, on pourrait faire ce parallèle là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas tant nos clients qui nous disent oui, qui nous aident à renforcer totalement, finalement, notre positionnement et notre compréhension du marché, totalement, mais c'est surtout ces clients qui nous disent non, qui fait que du coup, on comprend où est-ce qu'il faut renforcer notre argumentaire, notre compréhension de leurs besoins pour pouvoir proposer vraiment un produit qui va être acheté au final et pas vendu.
Ça, les balles sur l'avion, là ?
Ouais,
c'est ça.
Tu veux illustrer, François, peut-être, j'ai trouvé ça intéressant, moi aussi.
Ouais, le biais du survivant, en fait, c'est la problématique. Elle vient que majoritairement, on prend des conclusions sur les personnes qui réussissent, alors que ce sont des exceptions statistiques, et que la majorité, en fait, des personnes vont échouer. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, en entrepreneuriat. On sait qu'il y a une boîte sur 10 qui réussit et 9 boîtes sur 10 qui échouent. Et le fait de prendre des conseils sur quelqu'un qui a réussi, bah, en fait, c'est cacher les 9 personnes qui ont échoué, et de prendre comme exemple que la personne qui a réussi. Mais cette personne qui a réussi, est-ce qu'elle a vraiment compris? Est-ce qu'elle sait même pas, en fait, qu'il y a des choses qu'elle n'a pas faites qui auraient pu la faire échouer? Je sais pas si c'est
Ouais,
clair, ça.
je
Ça, c'est
comprends.
super important. Et donc ça, c'est un exemple qui est souvent utilisé pour expliquer le biais du survivant. Ce sont les bombardiers des années 40, pendant la guerre, qui, en fait, il y a des ingénieurs qui se sont posés sur la question de comment faire pour qu'il y ait moins de pertes de ces bombardiers. Et en fait, l'idée de base, quand la personne voit l'avion revenir, il y a plein d'impacts de balles sur les ailes et à l'arrière de l'avion. Et la première idée que les gens ont, majoritairement, hein, je dis bien, c'est de renforcer les endroits où il y a eu les impacts de balles. Sauf que ça va pas, puisque c'est l'avion qui est rentré du champ de bataille. Ça veut dire que lui, techniquement, ses impacts de balles ne l'ont pas tué. Donc, c'est techniquement pas les endroits où il faut renforcer. C'est plutôt les endroits où il n'y a pas eu les impacts de balles où il va falloir renforcer. Et ça, c'est très important. Renforcer, en fait, les endroits bah que finalement, un survivant n'aura jamais été testé en termes
Ah
de résilience. Et ça, c'est essentiel, quoi. Et on l'oublie. On l'oublie vraiment. Et à chaque fois, on essaye de modéliser. Je sais pas, c'est quelque chose, ça, souvent, on en parle. L'idée de prendre les résultats des plus grands, de comprendre, de les interviewer et de modéliser ces personnes-là.
ouais, c'est
Ah
Napoléon Hill.
oui, c'est la PNL. Enfin,
Ouais,
en
c'est
tout
la
cas,
PNL.
la PNL s'est beaucoup appuyée là-dessus. John Grinder et
Ok.
Richard Bandler se sont amusés à
Ok.
modéliser et à comprendre les personnes qui étaient particulièrement bonnes en
Ok.
communication.
Ok. Moi, ça, je pense que concrètement, ça va te donner des très bons outils pour réussir. Ça va te permettre d'améliorer tes compétences que tu as déjà. Mais par contre, si tu as des éléments dans ta manière de faire qui sont pas bons et qui sont pas visibles à premier abord, hein, on est bien d'accord que ce soit des trucs, c'est des choses que tu ne vois pas et qui auraient pu, enfin, qui peuvent vraiment t'impacter. Bah, c'est ces choses-là, en fait, que tu vas pas savoir. Et tu auras beau essayer de faire les meilleurs efforts, à faire exactement ce qu'on t'a appris, à modéliser les meilleurs, et bah, t'échoueras.
Ouais, en gros, on pourrait résumer dans le fait que la proportion d'apprentissage est décuplée en fait en apprenant des personnes qui se ratent, qui échouent, que en apprenant des meilleurs.
Voilà, encore une fois, faut-il que statistiquement, les personnes qui réussissent sont rares. Si par contre, tu es dans un domaine où les personnes qui réussissent sont importantes,
Oui,
dans ce cas-là, oui,
ça change tout.
tu peux te modéliser là-dessus, là, il n'y a pas de problème. Il faut juste que les statistiques soient pas intéressantes, c'est-à-dire, enfin, exceptionnelles.
Intéressant.
Ok, bon, bah c'est super, je pense qu'on a donné beaucoup de, enfin, en tout cas, différents éclairages sur la vision d'entrepreneuriat. Est-ce que, y a un mot que vous souhaitiez ajouter là-dessus, peut-être, Christian? Quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé discuter?
Bah, peut-être pour élargir ça finalement à ce qui m'est cher, c'est-à-dire la vie et sa propre vie. Je pense qu'en fait, c'est intéressant j'aime beaucoup ce terme qui est entreprendre sa vie, qui est que finalement, à quelque part, notre première entreprise, c'est notre projet de vie en fait. Avant même, parce que finalement, c'est un peu une mise en abîme, mais c'est un projet professionnel, on va l'entreprendre dans déjà un projet qui est notre projet de vie. Et je pense que c'est important peut-être avant de penser un projet professionnel, déjà de penser son projet de vie, parce que l'un des problèmes dans lequel j'ai pu tomber, c'est de tout focus après sur mon projet entrepreneurial et d'oublier qu'il y a un méta-projet qui est plus large, qui est ma vie, avec d'autres éléments qui sont importants à considérer, ma santé, mes relations, etc. Et donc c'est important de voir peut-être avec une plus grande photo, big pictures, pour pouvoir dire où est-ce que je vais mettre cette pièce qui est mon entreprise de professionnelle et voir comment elle gravite avec tout le reste et voir qu'est-ce qui est juste pour moi, sachant qu'encore une fois, le but, c'est que tout doit pas être, comment dire, parfaitement symétrique et parfaitement équilibré, hein, parce que une des définitions de l'équilibre, c'est la mort, hein. Et là, vous voyez qu'en fait, on est sur un équilibre extrêmement ennuyeux. Mais c'est plutôt, je parle d'un équilibre dynamique qui va être vraiment variable et qui va être unique d'une personne à une autre et qui va même varier aussi dans les différents moments de sa vie. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête jamais et qui est à piloter en permanence. Et donc, ça demande une certaine écoute de soi. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de se poser déjà sur qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre déjà pour ma vie personnelle et voir sa vie un peu comme un projet qui peut évoluer, qui peut être amené à grandir, etc. Et comme je disais, et ça, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre qui va être, qui est dans mes prédictions, dans mes prévisions de lecture. C'est un livre de Simon Sinek qui est Jeu fini, jeu infini, et où il explique justement il y a beaucoup de jeux qui sont finis, comme le sport, etc. Où il y a un début, il y a une fin, mais l'entrepreneuriat et je pense
Un jeu infini.
la connaissance de soi, etc., tout ça, ce sont des jeux infinis. Il n'y a jamais une ligne d'arrivée, sauf si c'est vous qui dites bah, je m'arrête. Et c'est OK, hein, on peut décider à un moment donné de s'arrêter. Parce qu'en effet, on peut être des fois influencé par les modes, etc. Et on se dit, ah, l'entrepreneuriat, c'est la mode. Bah, tiens, et si je faisais de l'entrepreneuriat? Et en fait, se rendre compte que bah, c'est pas pour nous, en fait, parce qu'on n'est pas en phase avec ça et qu'on a fantasmé une idée d'entreprendre quelque chose. Et on se rend compte qu'au final, bah, on veut les résultats rapides, mais on n'est pas prêt à vivre le chemin de l'entrepreneur. Or, si on veut embrasser la destination sans embrasser le chemin, bah, c'est juste un fantasme, en fait. Donc, les vrais entrepreneurs, ils sont prêts. Et d'ailleurs, c'est ça qui kiffe, c'est être sur le chemin de l'entrepreneuriat. Une fois qu'ils ont affiné leur boîte et qu'ils l'ont menée à la licorne ou à peu importe l'objectif qu'ils avaient fixé, bah, ils en développent une autre. Parce que c'est ça qu'ils aiment, c'est l'exercice de l'entrepreneuriat. Donc, c'est intéressant de voir ça et de pouvoir sortir encore une fois des dogmes et de ce que la société peut nous injecter et de faire un peu la part des choses et dire mais est-ce que c'est vraiment mon projet à moi, dans mon projet de vie, et de faire peut-être le choix de pas entreprendre aussi, par exemple. Je sais pas.
Ouais, d'entreprendre ou juste de salarié, c'est tout à fait correct, hein. Moi, je suis clairement d'accord avec ce que tu viens de dire, Christian. Plus je parle avec les gens autour de moi, et c'est vrai qu'il y a un truc qui revient souvent, et moi-même j'en ai été victime, et ça me fait l'idée d'un short, tu vois. Ça, c'est le fantasme. Le fantasme, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, j'ai l'impression. Et qu'en fait, c'est que quand on passe à l'action qu'on va se rendre compte, finalement, de la réalité, du projet. Bref, moi je ferai un dernier point en revenant sur ce que tu disais, Julien, enfin sur ce que le fondateur de la BlaBlaCar disait. C'est que en fait au moment où les sociétés sont lancées, enfin quand les idées commencent à vraiment naître, c'est à ce moment-là que la course commence. Moi je reviens quand même un peu là-dessus. Je pense qu'il est important aussi de dire c'est que tant que la mer est pas rouge. C'est souvent ce qu'on dit quand le marché n'est pas encore totalement plein. Il y a beaucoup d'intérêt en fait à ne pas voir ses concurrents comme des concurrents, mais comme des personnes qui peuvent faire grossir la part du gâteau du marché. Et je parle pas d'association forcément, mais de contribuer ensemble à l'amélioration de ce marché-là et de faire grossir finalement les profits de chacun. Et ça, je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est que, bah ouais, un concurrent, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est même quelque chose de bien. Et puis une dernière chose, même si la mer est rouge, rappelez-vous, parce que ça, c'est quelque chose, je sais plus si je l'ai déjà dit dans les derniers podcasts, mais super important, il y a toujours à manger entre les pattes des mammouths.
Ah non, tu l'avais pas dit, je connaissais pas.
Ça, en fait, la personne, je vais quand même donner la personne qui m'a dit ça. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer la personne qui a créé le lait de soja. En fait, c'était pendant mes études. On a eu la chance d'avoir cette personne-là qui travaillait à Danone, qui travaillait sur un système pour pouvoir ramener l'idée du soja en France. Le tofu n'avait pas forcément marché. Et du coup, ils essayaient de trouver quelque chose qui pourrait se vendre. Et c'est lui qui a inventé le lait de soja et il nous avait il avait fini en fait à nous demander à lever la main en fait en salle pour ceux qui étaient intéressés par le lait de soja, qui aimaient bien, qui pouvaient en acheter. Et il y avait que peut-être, je sais pas, 4 à 5% de la classe qui a levé la main, j'en faisais partie. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a, je m'en suis rappelé. Et en fait, il a dit, mais là, il y a un business.
Alors qu'il y avait juste...
Et pourtant, il n'y avait que 3-4%. Ouais. Tu vois, il n'y avait que 3-4% qui ont levé la main. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir 150 000 personnes qui veulent acheter ton produit pour pouvoir le faire. Et que ce n'est pas parce que tu as 150 000 personnes... que ce n'est pas parce que tu as des grosses entreprises autour de toi qui dévorent le marché peut-être avec le lait de vache, avec d'autres produits, que pour autant, ton lait de soja, il n'a pas sa place.
Ouais, très
et ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a toujours à manger entre les pattes des mammouths.
C'est un message d'espoir. Je suis content qu'on finisse là-dessus. Ça donne, je l'espère en tout cas, que cet épisode a donné l'envie à ceux qui y pensent depuis un petit moment. Entreprendre finalement, c'est une belle aventure, c'est un voyage qu'on peut s'autoriser à faire. Et puis le pire qui peut arriver, c'est juste que voilà, on aura appris des choses, on aura rencontré des gens. Ça aura peut-être pas été sanctionné par un revenu, mais financier. Mais je suis sûr qu'à tous les autres égards, on va s'enrichir en fait et y gagner. Donc merci à tous les deux d'avoir apporté votre contribution là-dessus, vos idées. J'aime beaucoup l'éclairage que vous avez tous les deux qui se complémente bien selon moi. Alors, voilà.
Merci Julien pour le sujet, c'était super intéressant.
Merci beaucoup. Donc, on va arrêter cet épisode ici. Merci à ceux qui nous écoutent. Petit appel à l'action peut-être. On vous invite à laisser des commentaires du coup. Donc, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, mais on va dire dans celle que vous utilisez. Un commentaire, idéalement 5 étoiles, hein, si vous avez aimé si vous avez trouvé de la valeur hein, dans nos échanges. Et puis, surtout, sentez-vous à l'aise de partager ces épisodes avec les gens qui vous sont proches, si vous connaissez autour de vous des gens qui seraient intéressés, ça nous aidera énormément à se faire connaître et voilà, ça nous motive à continuer. Donc merci encore, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Balado 3.0.